Voilà, bonjour, je me réjouis d'être avec vous pour cette troisième session. Hier, on a parlé d'abord du problème du mal et de la souffrance, ce problème qui est posé à la foi chrétienne, notamment par nos amis non chrétiens qui nous questionnent aussi. Et puis hier soir, on a continué en parlant de comment réagir face aux circonstances pénibles de nos vies quand la souffrance frappe à nos portes. Mais il me semble que si on s'arrêtait là, on aurait seulement gratté un petit peu la surface de ce que la Bible dit de la souffrance, en particulier le Nouveau Testament. Et en fait, je crains que ce soit un des problèmes de l'Église en France, mais en Occident, c'est que quand on parle de la souffrance, on n'aille pas plus loin que cela. On s'intéresse au problème du mal, parce qu'on a bien compris que c'était une objection majeure contre la foi chrétienne. On essaye de répondre aux circonstances difficiles de la vie qu'on peut vivre, parce que bien sûr, la souffrance, ça fait mal, et parce que notre société nous encourage à cela. On est dans une société qui cherche à écarter absolument toute forme de souffrance. Et donc forcément, nous sommes des produits de notre monde, de notre société, et donc nous-mêmes, nous cherchons à écarter la souffrance. Et on se dit, le monde me propose ça, qu'est-ce que votre Dieu propose? Et on est content que Dieu propose quelque chose face aux souffrances qu'on pourrait vivre. Et pourtant, si vous regardez bien, dans tout ce qu'on a dit depuis le début, on a parlé seulement de choses qui sont le lot commun de tous les hommes. Tous les êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou non, ont affaire au mal, ont affaire aux difficultés de la vie, sont frappés par la maladie, le deuil. Il n'y a pas de spécificité chrétienne dans tout ça. Et simplement, nous avons des réponses en plus. Mais quand la Bible parle de la souffrance, en particulier dans le Nouveau Testament, si vous faites une lecture suivie du Nouveau Testament et que vous vous arrêtez toutes les fois où il est question de souffrance, en fait, vous serez assez surpris que c'est un thème majeur qui revient presque, on pourrait dire, à toutes les pages, et ce qui contraste souvent avec les prédications dans nos églises où nous en parlons tellement peu. Et en fait, la souffrance qui revient à toutes les pages n'est pas la souffrance qui est le lot commun des hommes, mais c'est la souffrance spécifique du chrétien, la souffrance pour Christ. Et à mon sens, quand on parle de la souffrance, en fait, c'est de cette souffrance-là dont on devrait parler le plus. Et la réalité, c'est que, à mon sens, nous en parlons trop peu. Et moi, le premier, j'ai tendance, je pense à cause de l'influence du monde dans lequel nous vivons, à essayer de fuir cette souffrance-là, à l'éviter, à l'arranger, à essayer de monter une vie chrétienne qui n'aurait pas besoin de passer par là. Et j'ai été surpris ces dernières années. On a pris l'habitude dans l'Église de faire de la prédication suivie à travers des livres entiers de l'Écriture et de me rendre compte, au moment où on commençait à arrêter de choisir les thèmes et les dadas sur lesquels on a envie de prêcher, mais à prêcher la Bible chapitre par chapitre, de voir à quel point le thème de la souffrance revenait souvent et finalement venait nous déranger. On n'aurait pas envie de parler de ça, mais si on se met à enseigner la Bible chapitre par chapitre, eh bien on est bien obligé de voir que c'est un thème qui revient constamment et qu'il faut bien dire quelque chose de cela à l'Église. Ça m'a marqué également aussi en voyageant dans d'autres continents, que ce soit en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, de réaliser à quel point cette réalité de la souffrance est en fait le lot commun de nombreux chrétiens dans le monde aujourd'hui et aussi dans l'histoire. Et en fait, nous vivons en France, en Europe, en Occident, une sorte d'exception géographique et historique qui fait que l'Église, pour ainsi dire, ne souffre pas. Et en fait, cette réalité-là qui fait que nous ne souffrons pas, je me demande si parfois nous ne souffrons pas parce que peut-être nous ne vivons pas suffisamment notre identité de chrétien, et que si nous étions un petit peu plus, on pourrait dire réveillés, moi le premier, un petit peu plus radicaux, eh bien sans doute nous commencerions à réaliser beaucoup plus le coût de la vie chrétienne. Et je pense qu'au fond nous le savons. Et c'est justement parce que nous le savons qu'on essaye d'arranger une sorte de christianisme à demi-mesure, qui, bien sûr, est profondément spirituel, vit une certaine forme de piété, s'attache à l'Écriture, tout au moins sur les énoncés doctrinaux et tout cela, mais vit à un moment une sorte de christianisme un petit peu désincarné, en marge du monde qui est à côté. Et le sécularisme nous pousse à ça. Il nous pousse à dire « gardez la foi à la marge, et puis vivez votre vie comme le commun des mortels ». Et quelque part, un de mes amis disait « les chrétiens ont tendance à souffrir d'une sorte d'athéisme fonctionnel, c'est-à-dire que nous sommes des chrétiens, mais parfois nous nous rendons compte que du lundi au samedi, eh bien nous avons tendance à fonctionner un petit peu comme les athées, notre vie n'est pas si différente, et notamment dans ce rapport à la souffrance. Pourtant, quand on lit les évangiles, les actes, les épîtres, l'Apocalypse, on se rend compte constamment dans tous ces livres que la communauté de Jésus est une communauté qui souffre. Et si elle souffre, c'est justement à cause de son engagement pour Jésus. Et je pense que si on lit le Nouveau Testament sans lunettes, en laissant tomber nos appréhensions, on est obligé d'arriver à cette conclusion que être chrétien, c'est souffrir. Et pourtant, dans nos vies, cette réalité, il me semble, n'est pas aussi souvent visible qu'elle pourrait l'être ou qu'elle devrait l'être. Jésus était clair, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et pourtant, souvent, nous ne vivons pas cette persécution. Jésus a également dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et se charge chaque jour de sa croix. Il a aussi dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on rendra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et pourtant, je me rends compte que dans l'Église, quand on parle de témoigner, d'évangéliser, une des premières objections que nous avons, et moi le premier, c'est de dire, oui, mais si dans tel contexte je commence à parler, je sais déjà ce qui va se passer. Je vais être rejeté, on va se moquer de moi. Et cela suscite de la crainte et me pousse à me taire et à trouver une façon de cacher, de mettre ma foi plus respectable. Mais pourtant, Jésus a dit, si ça vous arrive, vous devriez être heureux et vous réjouir. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et on continue après les évangiles, on va dans les actes et on voit dès les premiers chapitres que les apôtres sont heureux, nous dit le texte, de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et ils prêcheront, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, nous en parlons tellement peu, et quand cela arrive, on se rend compte que ça nous ébranle. Et parfois, ça fait même que certains chrétiens lâchent la foi, parce que nous ne considérons pas ça comme faisant partie de quelque chose de normal dans la vie chrétienne. Et je pense que sans tomber dans l'évangile de prospérité, qui dirait que si nous sommes de bons chrétiens, nous devons être riches, en bonne santé, et tout ira bien. Je crois que l'Église en Europe, en Occident, en France, a tendance quand même à s'installer dans une sorte de compromis mou, où on aime la doctrine, on aime la belle louange, mais l'idée d'un engagement radical qui coûte, c'est pas quelque chose qu'on aime mettre en avant. Il suffit parfois de regarder même nos budgets d'Église. On préfère financer des beaux bâtiments, avoir des beaux programmes dans nos Églises, plutôt que de dire, eh bien, donnons de façon radicale et généreuse pour la mission, pour envoyer des gens là où ça coûte et peut-être ils ne reviendront pas. Et les statistiques le disent, vous prenez aux États-Unis, c'est seulement 0,02% du budget des églises qui est consacré à la mission là où ça coûte. Et quand on lit les Nouveaux Testaments, les Actes, les Épîtres, on voit que les priorités des apôtres, des évangélistes, de Paul et d'autres, étaient autres. Et ça me parle. Est-ce que notre vie chrétienne a pris en compte cette réalité que la souffrance, selon le Nouveau Testament, devrait faire partie intégrante de notre identité ? Et que du coup, notre vie devrait être une vie radicale, engagée pour Jésus, quoi qu'il en coûte ? Et si nous vivons cela, eh bien nous allons parler plus souvent de la souffrance, mais pas la souffrance qui est le lot commun de tous les hommes. Vous allez parler de la souffrance que nous pourrions ne pas vivre si nous choisissions de ne pas être autant engagés pour Christ, mais qu'à cause de notre engagement, nous vivons. Et je pense que quand on lit les Épîtres, souvent on aime bien s'arrêter sur les énoncés doctrinaux, on aime bien regarder les aspects pratiques de vie chrétienne qui concernent nos activités communes, mais on oublie que ces Épîtres ont été écrites à chaque fois dans des contextes profondément tragiques, où les chrétiens étaient persécutés, et que dans ce contexte-là, on les exhortait à continuer à vivre fidèlement, à combattre le bon combat, à être présent pour Christ. Et ce matin, je voudrais regarder avec vous l'épître aux Philippiens, qu'on va parcourir, regarder, et en étant centré sur ce thème-là, d'être profondément engagé pour Jésus. Et on va voir que cet épître, souvent on s'arrête pas forcément là-dessus, on a beaucoup de richesses qu'on met en avant dans cette épître, mais on mentionne assez peu cette idée qu'au cœur de l'épître, au-delà de la joie, il y a la souffrance. La souffrance que vit Paul, la souffrance que vit l'Église, la souffrance que Paul appelle à vivre, et dont il fait une sorte de modèle pour la vie chrétienne. Et je prends Philippiens, mais en fait vous pourriez prendre quasiment tous les livres du Nouveau Testament, et je vous encourage à le faire, et vous rendre compte des mêmes choses. Et je vous invite à méditer cela, et à vous poser sérieusement la question, à se dire, mais est-ce que ma vie aujourd'hui est assez radical et à l'image de mon Seigneur et de Jésus-Christ. Et bien sûr, je me pose cette question, moi le premier, pour nous-mêmes. On ne va pas lire toute l'épître, mais on va se concentrer sur un texte qui se trouve à la fin du chapitre 1. Et en fait, quand on choisit des morceaux ciblés de la lettre aux Philippiens, c'est un texte sur lequel on ne s'arrête pas trop. On aime bien parler du chapitre 1, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la finira ». On aime parler de Paul qui dit « La mort m'est un gain, et si je reste, c'est pour servir, mais j'aimerais partir », on parle de l'espérance. Et puis très vite, on saute au chapitre 2, et on parle de Jésus, notre modèle d'humilité, et puis on arrive au chapitre 3, on en a parlé pendant la scène, communié aux souffrances de Christ, même si on ne sait pas trop ce que ça représente, mais on passe dessus, et puis on arrive à Philippiens 4, « Ne vous inquiétez de rien ». Dans toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins. Et bien sûr, souvent, ne vous inquiétez de rien. Dans nos vies, ça concerne plus souvent les maux communs de tous les hommes que les soucis que nous avons à cause de l'Évangile. Mais pourtant, au centre de tout ça, il y a un texte qui, à mon sens, unifie tout et qui, en fait, est le cœur de l'Épître. Mais souvent, nous passons à côté. Et regardez au chapitre 1, à partir du verset 27. L'apôtre Paul a introduit, il a rappelé le parcours des Philippiens, l'assurance qu'il a que Christ va continuer, il a parlé de lui-même, et maintenant il va dire « Voilà pourquoi je vous écris !» Et c'est ce qu'il est en train de dire. Et en fait, Paul leur écrit pour une seule chose. Il y a une seule raison pour laquelle il écrit. Et c'est ce qu'il dit, seulement, une seule chose, hein, seulement. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires, c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. » D'accord ? Je pense que ça, c'est le cœur réel de la lettre aux Philippiens. Paul dit seulement, hein, une seule chose que j'ai à vous dire, que je sorte de prison et que je vienne vous voir, que je reste absent, que j'entende une seule chose de vous, c'est que vous tenez ferme dans un même esprit en train de combattre pour la foi de l'Évangile. Il parle d'un combat. Sans vous laisser intimider par les adversaires, ils sont nombreux, c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce de souffrir pour lui. Et Paul fait un lien direct entre se conduire d'une manière digne de l'Évangile et souffrir pour l'Évangile. Une vie digne de l'Évangile, c'est une vie qui souffre pour l'Évangile, si on en croit les mots de l'apôtre. Et ça commence à se poser cette question, si je ne souffre pas pour l'Évangile, est-ce que ma vie est encore digne de l'Évangile ? Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. J'ai souffert, vous souffrirez aussi. Et c'est ce qu'il nous dit. Et pourtant, on n'aime pas ça, mettre en avant de nos campagnes d'évangélisation. Ça ne fait pas bonne pub pour le christianisme. Mais pourtant, c'est de cela dont Paul nous parle. Paul dit une seule chose, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Et j'aime pas forcément aller citer des mots grecs, parce que je trouve que ça donne l'impression que si on n'est pas assez érudit, on peut pas comprendre le texte. Mais il y a quand même quelque chose là qui est intéressant et qui vaut la peine de citer, c'est que quand il dit « conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile », le mot qu'il utilise, c'est un mot qu'il utilise que là, qui est « politoistai », et qui vient de « poli », qui a donné « polis », « politique », et qui veut dire « la cité ». Et l'idée d'avoir une conduite digne de l'Évangile, politoistai, c'est, on pourrait traduire, être un citoyen digne de l'Évangile. Et c'est intéressant que cette idée de dignité, chez Paul, il l'incarne dans cette idée de citoyenneté, être un citoyen digne de l'Évangile. Et il va reprendre cette même idée à la fin du chapitre 3, au verset 20, quand il dira « Pour nous, notre cité est dans les cieux ». Vous avez cette même idée, notre cité, notre citoyenneté. Et dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'idée centrale des Philippiens, c'est Paul qui dit à cette église, il faut que vous soyez des citoyens dignes de l'Évangile. Et pour nous, ça nous parle peu, mais pour les Philippiens, c'est quelque chose qui faisait tilt en un instant. Pourquoi ? Parce que Philippe était une des rares villes du monde grec, qui était une colonie romaine, et donc les habitants de Philippe étaient des citoyens romains à part entière qui avaient les mêmes droits que les Romains. Et donc vous imaginez, à l'époque, Rome est la puissance dominante du monde. Et en fait, Rome est en train de vivre une forme d'épopée progressiste qui ressemble de maintes et maintes façons au monde occidental que nous vivons aujourd'hui. Et l'idée de Rome, c'est avec un dieu sur terre, l'empereur, d'instaurer une sorte de culte impérial qui laisse une certaine forme de liberté, mais qui impose aussi une forme d'idéologie progressiste qui tend vers une paix universelle, la Pax Romana. Hein, et l'Empire romain est connu une fois que les légions passent. Eh bien, on incorpore les peuples du monde des barbares, ils rejoignent Rome, et on installe la paix. Et avec la paix, on amène la civilisation, la prospérité, et puis vous avez les gens qui construisent des maisons, hein, le domus romain, on s'installe, on est bien, on établit une sorte de paradis sur terre. Et à tel point que quand les empereurs naissent, on parle d'évangile, de bonne nouvelle. On a trouvé des plaques qui annoncent l'arrivée d'Auguste, et il est question de l'évangile d'Auguste, la bonne nouvelle d'Auguste. Voilà un nouvel empereur qui va nous amener dans la paix romaine. Et puis avec tout son lot de philosophie, d'éducation, d'univers extrêmement sophistiqué, de richesse, de jouissance de ce monde, avec l'idée qu'on va abolir le travail, alors à l'époque pas avec des robots, mais avec les esclaves. Hein. Vous avez cette case de citoyens aisés qui votent, qui fait les affaires de la ville, et qui ne travaillent pas. Il y a d'autres gens, des peuples barbares qui sont là, qui travaillent pour nous. Et de maintes et maintes façons, hein, on voit des schémas qu'on retrouve aujourd'hui dans notre mode occidental. La prospérité, l'absence de souffrance, une espèce de paix régulée par un État fort. Et vous avez toutes ces choses. Et en fait, Rome est en train d'essayer d'installer une sorte de paradis humain, terrestre, où l'être humain se fait Dieu et s'installe le paradis sur Terre. Et être citoyen romain, eh bien, c'est idéal. Hein. Vous avez le droit à tout ça. Et c'est la meilleure citoyenneté du monde. Vous imaginez aujourd'hui, vous prenez des grandes villes comme Dubaï, où vous avez la population locale qui représente plus que 10%, les Émiratis, qui en fait vivent une sorte de paradis sur terre artificiel construit de main d'homme, et puis avec des tas de populations qui viennent à grandir cette ville et à montrer la grandeur de ce qu'ils sont en train de faire. Et Philippe, à l'époque, est un petit peu dans ce mythe-là. Et face à ces citoyennetés dont les Philippiens pouvaient se réclamer, eh bien, Paul, lui, en fait, a mis cette notion d'une autre citoyenneté, et la citoyenneté de l'Évangile, de Jésus et du royaume de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre vie chrétienne. Souvent, on a tendance à résumer l'Évangile à sa dimension, on pourrait dire, verticale, c'est-à-dire moi et Dieu. Et si vous demandez aux chrétiens, et on pourrait faire le jeu ici, si vous deviez résumer l'Évangile en un seul verset, quel verset vous prendriez ? Il y a de grandes chances que le premier verset qui vous vienne à l'esprit, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en fait, ce verset traite uniquement de cette dimension verticale. Dieu donne son Fils pour nous réconcilier avec lui. Gloire à Dieu. Mais est-ce que l'Évangile se limite à cela ? Et moi, j'aime dire, quand je dois résumer l'Évangile, que je prendrais plutôt un autre verset qui se trouve dans Apocalypse, au chapitre 1. La fin du verset 5 et du verset 6, on le connaît tous parce que c'est un cantique qu'on chante. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous avez les mêmes idées que dans Jean 3,16. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Mais ce verset va plus loin. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Pour que nous soyons un royaume de prêtres, de toute langue, de toute nation, qui remplissent la terre. Jésus ne cherche pas simplement à réconcilier des êtres humains avec lui, mais il cherche à constituer une nouvelle humanité de rois-prêtres à sa gloire qui remplissent la terre pour l'éternité. C'est pour ça qu'on finit sur une nouvelle terre, et pas sur un nuage, simplement en train de jouer de la harpe, on en rigolait avec certains hier soir. Mais l'être humain est fait pour vivre sur terre, dans un corps, et pour régner dans ce monde. En fait, cette vocation de roi-prêtre, vous la retrouvez à travers toute l'Écriture. Adam, en Éden, a ce rôle de roi-prêtre. Dieu l'établit comme roi sur la création. Il est en relation avec Dieu et il joue un rôle de médiateur entre la création et Dieu. À cause de la chute, bien sûr, il perd ce statut. Mais quand Dieu va à nouveau créer un nouveau peuple au travers d'Israël, qu'il va venir habiter au milieu d'eux, dans le tabernacle et puis le temple, si vous regardez dans Exode chapitre 19, il dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres ». Et donc le rôle d'Israël, c'est au sein de ce monde, de cette humanité déchue, d'incarner de façon visible ce que devrait être un royaume dont Dieu serait le roi, géré par un peuple de prêtres qui règne dans ce monde pour sa gloire. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous avez la loi qui ne concerne pas seulement les aspects spirituels, mais qui concerne tous les domaines de la vie. La façon dont on mange, dont on s'habille, dont on gère les relations, dont on gère le travail, dont on gère sa famille, et sa maison. Et vous avez absolument tout qui est dedans. Parce que Dieu est en train de montrer dans la culture de l'époque qu'est-ce que ça veut dire que de gérer ce monde à son image. Et en fait, la vocation qui était celle d'Adam, de gérer le monde pour la gloire de Dieu, eh bien, elle se poursuit malgré la chute. Le peuple de Dieu doit toujours gérer le monde de Dieu selon les principes de Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient, il se présente comme le nouveau roi prêtre, le nouvel Israël, qui vient accomplir ce qu'Israël n'avait pas réussi à faire. Et il va dire qu'en lui, le royaume de Dieu s'est approché. Ce n'est pas simplement le salut qui s'approche, mais c'est le royaume de Dieu qui s'approche. Et si vous regardez dans le livre des Actes, au début et à la fin, il est à nouveau question du royaume de Dieu. « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras ton royaume ?» Et Paul, à la fin, ça finit, il enseignait le royaume de Dieu. Et Pierre dira, en parlant de l'Église, « Vous êtes une nation sainte, un royaume de prêtres. » Ce qui veut dire que le mandat qui était donné à Adam, qui se poursuit avec Israël, continue dans l'Église. L'Église n'est pas simplement des êtres réconciliés avec Dieu, c'est un peuple de rois-prêtres qui est en mission dans ce monde. Et ça veut dire que nous devrions vivre dans ce monde qui appartient à Dieu, comme le peuple de Dieu, selon les principes de Dieu. Alors quand on dit ça, certains disent, eh bien, allons-y, conquérons la culture pour Dieu. Non, ça ne marche pas, parce que le monde est empreint du péché, et on sait que seul Christ, à la fin, pourra installer pleinement son royaume. Mais néanmoins, de façon prophétique, hein, Pierre dira, vous êtes un royaume de prêtres afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. De façon prophétique, nous devrions, par nos interactions, par notre comportement, par notre action dans ce monde, montrer, comme une sorte d'image un peu floue, à quoi ça ressemblerait le royaume de Dieu. D'accord ? Donc le but de la vie chrétienne, c'est pas simplement qu'on soit sauvé et réconcilié, c'est qu'à un moment, on vive quelque chose dans ce monde qui montre à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le rôle de chaque chrétien est important. Et que ce n'est pas simplement dans l'Église, les pasteurs, les anciens, les évangélistes qui font le ministère. L'apôtre Paul dira que ces gens-là ont été donnés pour équiper les chrétiens afin qu'ils fassent l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère, quand on regarde les épîtres, on se rend compte qu'elle concerne aussi tous les domaines de la vie. Alors Paul le détaille beaucoup moins que dans la loi de l'Ancien Testament. Vous n'avez pas des manuels qui décrivent en long en large comment on doit travailler, comment on doit gérer son argent. Mais vous avez des versets très courts qui résument tout ça. Que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que chaque domaine concerne la gloire de Dieu. Quel est le problème avec les épîtres ? C'est que l'évangile s'adresse à toutes les cultures dans le Nouveau Testament. Et que s'il avait fallu faire un manuel comme dans l'Ancien Testament, je vous laisse imaginer la bibliothèque qu'il faudrait pour expliquer dans chaque culture à quoi ça ressemble de vivre selon les principes du royaume. On ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que vous avez des grands principes, vous avez l'exemple de l'Ancien Testament, et l'idée de dire, c'est de dire, quand Paul nous dit « faites tout pour la gloire de Dieu », à quoi ça ressemblait dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on entrevoit dans le Nouveau, et maintenant, avec la sagesse que Dieu nous donne et l'aide du Saint-Esprit, à quoi ça devrait ressembler dans notre culture ? Et pour que nous puissions, là où nous sommes, vivre selon les principes du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Paul ne parle pas simplement d'une spiritualité chrétienne, mais d'une citoyenneté chrétienne. La citoyenneté englobe tous les domaines de la vie. Et c'est ce qui faisait qu'un pasteur de New York, d'une grande église là-bas, j'étais interpellé, il avait cette réflexion, il a beaucoup travaillé la question de l'engagement de l'église et de la culture, et il dit souvent, nous croyons que l'église est une entité simplement spirituelle, et nous nous préoccupons uniquement des choses spirituelles. Mais en réalité, l'église est une entité qui est aussi profondément culturelle. Nous sommes la culture du royaume de Dieu dans un monde qui est régi par la culture du péché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous enlevez l'Église, le seul principe qui agit dans ce monde, c'est le péché, parce que l'humanité est pécheresse. Mais parce que l'Église est présente dans le monde et que l'Église est le corps de Christ, qu'elle est le temple de Dieu habité par l'Esprit, parce qu'il y a l'Église, eh bien il y a un peuple dans ce monde qui, lui, fonctionne selon une autre culture, qui est celle du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que ça fait conflit. Parce que la culture du royaume que nous vivons vient s'opposer à la culture du péché. Et tout le grand défi pour nous, c'est de dire, mais comment vivre cette culture du royaume de Dieu aujourd'hui, dans un monde qui est pécheur? Et alors le danger, et c'est toute la problématique des missions, c'est que souvent on va mêler la culture du royaume avec des cultures humaines. Vous pensez les missionnaires qui sont partis en Afrique, et puis qui ont expliqué que bien s'habiller, ça voulait dire mettre un costume européen. Ils imposaient non pas la culture du royaume, mais la culture européenne. Et c'est là où nous, on doit être très vigilants. Mais la culture du royaume, elle est définie dans la Bible, on doit la discerner. Vous prenez par exemple le sermon sur la montagne. Vous avez énormément de principes. Est-ce qu'on prêche le sermon sur la montagne? Comment on devrait se comporter en tant que chrétien? On a bien parlé de doctrine de foi, hein, mais quand il s'agit d'engager le monde, c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est là où on devrait être présent. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'être un citoyen de l'Évangile dans le monde du travail? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un citoyen de l'Évangile dans l'éducation et dans la santé? Est-ce que quand nous voyons les chrétiens interagir dans une ville, est-ce que nous voyons, dit Tim Keller, au milieu de la ville des hommes, une sorte d'hologramme qui commence à dessiner la nouvelle Jérusalem? Imaginez, hein, vous avez Babylone, et puis au milieu de cette Babylone qui est conduite par le péché, vous avez des gens, ils se comportent différemment. Et quand vous les regardez, vous commencez à voir en filigrane à quoi ressemblerait la cité idéale. Et cette cité-là, on ne va pas l'installer. On en est simplement les témoins, les prophètes. Mais cette cité, un jour, sera présente. Jésus l'installera. Et dans l'éternité, on continuera à s'occuper de toutes sortes de choses. Hein. Vous regardez dans l'Apocalypse, vous avez les rois de la terre. C'est qui les rois de la terre? C'est nous, hein, un royaume de prêtres. Ils viennent présenter à l'agneau le fruit de leurs œuvres. Donc on va continuer à faire des tas de choses dans un monde libéré par le péché. Mais la réalité, c'est que ça commence maintenant. Et donc, si tu penses que tout ce qui compte, c'est les activités de l'Église et que ton travail ne sert à rien, tu es complètement à l'opposé de la pensée biblique. Tu es en train de tomber dans une forme de pensée de Platon qui sépare le spirituel et le matériel. Dieu s'intéresse à tous les domaines et on devrait les vivre comme des citoyens du royaume. Ça va jusque-là? Espèce de grand survol, mais qu'on a tendance à oublier, à perdre, en particulier dans le monde séculier, qui dit que de toute façon, la pensée spirituelle n'a rien à faire dans le cœur de la société. Mais la pensée athée est tout autant spirituelle que notre pensée. Hein. Simplement, nous nous faisons avoir. Et Paul dit donc, conduisez-vous comme des citoyens dignes de l'évangile du Christ. Et il dit, si vous voulez vivre la culture du royaume, eh bien les amis, ça ne va pas se faire sans souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une grâce. Essayez de vivre le sermon sur la montagne à la lettre, je vous assure, vous allez souffrir. D'abord, vous commencez à donner sans compter à tous ceux qui vous demandent. Difficile, hein? Quand Jésus dit « Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi ». C'est simple. Un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Et puis vous commencez à marcher dans les rues de Paris, vous êtes face à tous ceux qui veulent emprunter de vous. Et là, vous dites « Mais Seigneur, comment vivre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est à ces choses-là que les chrétiens devraient réfléchir. Mais quand on réfléchit à ça, ça commence à coûter, parce qu'on se rend compte que ça engage, qu'on se rend compte qu'on salit les mains. Qu'on est dans toute cette question de comment être dans le monde sans être du monde et tous ces principes-là qui commencent à rentrer en question. Et Paul va développer cette citoyenneté dans l'Épître aux Philippiens et il nous dit des belles choses. Vous êtes des citoyens de l'Évangile et la bonne nouvelle, c'est que cette citoyenneté, ce n'est pas vous qui l'avez produite. Ça, c'est quelque chose de bon. Hein, c'est ce qu'il a dit au chapitre 1. À cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'avènement jusqu'au jour du Christ Jésus. C'est Dieu qui nous a fait naître comme des citoyens du ciel, par l'action de la parole et de l'esprit. Et donc, on est dedans. C'est la bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le Seigneur lui-même, eh bien, va faire de nous des bons citoyens. Il va continuer l'œuvre qu'il a commencée. Et c'est ce que Paul nous dit. Il en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et Paul priait pour les chrétiens. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus, donc une citoyenneté vécue dans l'amour, en vraie sensibilité, afin que vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Et sincère, c'est l'idée de sans cire. À l'époque, hein, on mettait de la cire pour boucher les défauts des statues. Et l'apôtre Paul dit, moi, mon but, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de cire. C'est que quand on regarde, resplendissiez de la gloire de l'Évangile comme des bons citoyens de l'Évangile. Mais au moment où l'apôtre Paul dit ça, il est en train de dire, il est juste, verset 7, que j'ai pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Paul est en train de dire, je vous écris ça, mais il écrit ça du fin fond d'un cachot. Hein. Il est en prison, il a les fers aux pieds et eux sont en train de souffrir la persécution. Si vous relisez dans Acte 15, quand l'Évangile arrive à Philippe, Vous vous rendez compte, c'est pas dans la joie. Hein. Paul, il commence par se faire frapper, on le traîne devant les tribunaux, il finit en prison avec le geôlier, il s'en sort grâce à un tremblement de terre, et très vite, il doit fuir la ville, parce que les Juifs essayent de le lapider, et dans toutes les pages qui suivent, il va de ville en ville, et son défi, c'est comment implanter une église le plus vite possible, avant que les Juifs arrivent pour me lancer des cailloux. Hein, c'est ça qui se passe quand Paul arrive en Europe. L'arrivée de l'évangile en Europe, c'est cela, et les Philippiens, les Thessaloniciens, qui sont dans la même région, vont vivre ensuite les mêmes persécutions. Donc Paul est en train de dire, cette citoyenneté, elle vous est donnée par Dieu, elle sera parachevée par Dieu, et elle est à l'exemple du grand citoyen suprême qui est dépeint au chapitre 2, et qui est Jésus-Christ. Et en fait, Paul est en train de dire, hein, conduisez-vous d'une manière de l'évangile, en tenant ferme, en tenant le bon combat, en prenant exemple sur moi, mais surtout, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, et il y a un même amour, une même âme, une seule pensée, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Et Paul va dépeindre au chapitre 2 l'exemple parfait, le grand citoyen, le fondateur de ce royaume, le Christ. Et quelle est l'attitude du Christ ? Eh bien, c'est cette humilité de dire « j'ai tous les droits, je suis fils de Dieu, je suis roi », et de la même façon, en Christ, nous avons tous les droits. Mais ces droits-là, à cause de l'avancée du royaume de Dieu, eh bien, je vais les laisser de côté. Je vais me dépouiller, je vais m'humilier, et je vais aller servir. Et si vous voulez avoir l'illustration de à quoi ça ressemble, vous mettez en parallèle Philippiens 2 et Jean 13, où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et c'est saisissant. Hein. Philippiens 2, Jésus se dépouille de sa gloire et il prend la condition d'esclave. Et vous regardez dans Jean 13, Jésus enlève sa tunique, dont il nous sera dit après que c'était une belle pièce, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se ceint du drap qui est la tenue du serviteur. Hein, donc il est en train d'illustrer ce que Paul nous dit dans Philippiens 2. Il prend le drap, il se met à genoux, hein, la tâche qui était réservée au dernier serviteur de la maison, et il lave les pieds sales de ses disciples. Et il dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas ta part avec moi. L'exemple de Jésus, c'est celui qui se dépouille, s'abaisse, se met au service volontaire des autres, et il va aller faire ça jusqu'à la mort sur la croix. Et à cause de ça, il sera élevé, il va hériter la royauté, et nous le confessons comme roi. Et Paul est en train de dire, vous voulez vous conduire d'une manière digne de l'évangile ? Eh bien, commencez par avoir les mêmes sentiments que votre maître, que Jésus. Bien sûr, avec les frères et sœurs, que j'entends dire que vous demeurez fermes, combattant d'une même âme, en étant unis, hein, dans un même esprit. Le premier endroit où on souffre en tant que chrétien, c'est dans l'Église. Et si on vous dit que l'Église, c'était un endroit où vous ne souffriez pas, eh ben, vous allez vite voir, en passant un peu de temps dedans, que ce n'est pas vrai. Et je pense qu'on devrait le dire beaucoup plus vite. Parce que souvent, les gens pensent que l'Église, c'est un endroit parfait. C'est déjà le temple de Apocalypse 22, mais ce n'est pas du tout le cas. Dans l'Église, c'est un endroit d'hommes pécheurs en train d'être sanctifiés. Et comment se fait cette sanctification ? Eh bien, souvent, elle se fait par les coups que nous nous mettons les uns les autres. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Le fer aiguise le fer. Et des fois, le fer est très saillant. Et on se prend des coups dans l'Église. Et de la même façon que Jésus a souffert, eh bien, dans l'Église, on souffre. Mais l'humilité va faire qu'à un moment, eh bien, au lieu de rendre les coups, on va commencer à apprendre à encaisser la souffrance, à remplacer par l'amour et à être sanctifiés les uns par les autres. Mais cette attitude de service, elle ne se limite pas à l'Église. Jésus nous donne l'exemple de ce qu'est le vrai service au travers de la parabole du bon samaritain. Qu'est-ce que veut dire aimer son prochain ? Aimer le prochain, c'est aimer celui qui est différent. C'est celui qui est mon ennemi. C'est celui que je considère comme impur. Celui qui me repousse. Mais qu'à un moment, Dieu va mettre sur ma route, il sera mon prochain, et là, je vais devoir être son prochain en l'aidant. Et c'est quelque chose qui coûte et qui déclenche de la souffrance. Ça coûte de faire rentrer un réfugié dans sa maison. Ça coûte de rogner sur une part de son budget pour être généreux avec quelqu'un qui est dans le besoin. Ça coûte de s'arrêter pour prendre le temps de parler avec quelqu'un qui est dans la souffrance et qui est dans un tel désespoir où on sait que chaque heure investie peut-être ne portera jamais de fruits. Mais au moins, on aura montré de l'amour. Et tout cela, c'est des choses qui coûtent. Aimer coûte. Parce que quand on aime, on donne quelque chose. Et le principe de l'amour, c'est qu'on le donne gratuitement sans rien attendre en retour. Et c'est ce que Jésus nous a montré comme amour. À ceci, nous connaissons l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous, nous dit l'apôtre Jean. Et il dit qu'on doit le prendre en exemple pour aimer, non pas seulement en parole, mais en action et en vérité. Une citoyenneté qui se donne à l'image de Christ. Et Paul dit que cette citoyenneté, eh bien, on doit la vivre. avec crainte et tremblement. C'est ce qu'il dit au chapitre 2 et au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez avec votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Certains traducteurs vont traduire « mettez votre salut en action ». On est sauvé, il ne s'agit pas de travailler pour être sauvé, mais c'est par-dessus notre salut. On ajoute les œuvres que Dieu a prévues. Et on le fait avec action, avec fougue. Et ça coûte. Ça coûte aussi de faire ça. Ça coûte d'être engagé dans le ministère pour l'Église. Ça coûte de chercher à se dire dans son travail comment est-ce que, en plus de travailler, je le fais pour la gloire de Dieu. Ça déclenche de la souffrance. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cela, nous ne sommes pas seuls, parce que le verset 13 nous dit que c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Le Père a commencé son œuvre de citoyenneté en nous, il va l'amener jusqu'au bout. Christ est notre grand exemple, le modèle parfait qui l'a vécu pour nous et qui nous montre l'exemple. Et le Saint-Esprit est là. Et il vit en nous pour nous donner ce que nous ne pouvons pas produire. Et ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous devrions nous lever le matin, confesser devant Dieu notre incapacité et de dire « Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit vit en moi et que lui, il va m'aider et chercher à avancer avec la force qu'il nous donne en mettant notre zèle pour travailler avec crainte et tremblement. Pas par peur des hommes, mais crainte et tremblement parce que le Seigneur est proche et qu'il vient et qu'on doit être prêt à accueillir notre maître et être trouvé à l'œuvre. » Paul continue « Faites tous en murmure des discussions pour être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Et on retrouve cette double citoyenneté. Hein. Génération corrompue et perverse, un peuple mondain, souillé, qui vit dans la débauche. Parfois on est surpris, on regarde nos politiques et on dit oh, « tu te rends compte comme ils sont mauvais ». Mais on ne devrait pas s'étonner que des païens se comportent comme des païens. C'est la culture du péché dans laquelle nous vivons. Par contre, là où devrions nous étonner, c'est quand dans l'Église, nous voyons les mêmes choses. Alors que nous devrions être un peuple pur, sans reproche, irréprochable, qui brille dans ce monde de ténèbres comme des flambeaux dans le monde. Et comment est-ce que nous brillons? Jésus nous l'a dit, c'est dans le sermon sur la montagne, hein, c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous voyons les œuvres de justice du peuple de Dieu? Quand on regarde dans les entreprises, dans le monde associatif, dans la santé, est-ce que là où il y a des chrétiens, est-ce que nous disons, tiens, là il y a quelqu'un qui brille, il porte quelque chose de différent. Et quand on lui pose des questions, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Eh bien, il rend témoignage fidèlement de sa foi. Regardez ce que Aristide, un philosophe athénien, a écrit à l'empereur romain Hadrien au IIe siècle. On est dans un contexte de souffrance, les chrétiens sont sous la persécution. Et il écrit à l'empereur romain et il dit ceci. « Les chrétiens connaissent Dieu et croient en lui. Ils s'attachent à ceux qui les oppressent, en font leurs amis. Ils font du bien à leurs ennemis. Leurs épouses sont absolument pures, leurs filles sont modestes, les hommes s'abstiennent de tout mariage illégal et de toute impureté. Ceux qui ont comme esclaves des femmes et des enfants les persuadent de devenir chrétiens par la seule qualité de l'amour qu'ils leur témoignent. Et lorsque ceux-ci se sont faits chrétiens, ils les appellent frères. Ils s'aiment les uns les autres, ils ne refusent pas d'aider les veuves, ils protègent les orphelins contre ceux qui leur font violence. Celui qui a, donne sans compter à celui qui n'a pas. Quand ils voient un étranger, ils le font entrer dans leur demeure et se réjouissent de sa présence comme de celle d'un frère. Car ils ne s'appellent pas frères par le sang, mais selon l'esprit. Si l'un d'eux est pauvre et dans le besoin, et qu'il n'ait pas de nourriture à lui donner, ils jeûnent pendant 2 ou 3 jours afin de pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Ils obéissent scrupuleusement au commandement de leur Messie. Chaque matin et à chaque heure du jour, ils remercient et glorifient Dieu pour l'amour qu'il leur témoigne. À cause d'eux, toute la beauté qui est renfermée dans le monde est révélée. Mais ils ne proclament pas publiquement leurs bonnes actions. Ils s'attachent tout au contraire à ce que personne ne s'en aperçoive. Ainsi, ils s'efforcent de devenir justes. En vérité, ces gens-là sont nouveaux. Il y a quelque chose de divin en eux. N'est-ce pas incroyable, hein ? Deuxième siècle, un philosophe athénien qui parle de la foi de nos pères et qui dit bah, « quand on les voit, il y a quelque chose de divin. On voit un autre royaume qui est là en train de se dessiner en filigrane au milieu du monde. » Des gens qui étaient sous la persécution, et laissez-moi vous dire que quand ils jeûnaient pour avoir de quoi partager avec celui qui avait faim, hein, c'est ce qu'il dit, bah, ça impliquait son lot de souffrance. Ils avaient faim. Hein, ça coûte, c'était pas des surhommes. Et je crois que cette souffrance-là, en fait, est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir le faire par choix et de combattre pour l'Évangile. Et Paul va continuer dans Philippiens et à parler de la souffrance qu'il vit, et il va nous montrer des exemples de héros qui ont vécu cette souffrance au travers de son propre exemple, de Timothée et d'Épaphrodite. Et quand il parle de son propre exemple, il va dire « ce sera bon sujet de gloire à la fin au chapitre 2, verset 16, au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation en plus du sacrifice de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous d'eux-même et réjouissez-vous avec moi. » Paul dit « ma vie, je la donne en sacrifice. » C'est comme une libation. Et une libation, qu'est-ce que c'était ? On mettait le sacrifice sur l'autel, hein. Vous avez la pièce de viande, et puis vous prenez un verre de vin et vous le versez par-dessus. Et avec le feu qui est en dessous, au moment où vous versez, ça s'évapore tout de suite, ça fait de la fumée, ça monte un parfum, vous entendez « pshhh ». Et Paul dit « ma vie, c'est ça. Christ s'est donné en sacrifice, et moi, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je prends, pshhh, je donne par-dessus. » Et ça fait monter le parfum de Christ. Exemple d'un citoyen. Et puis il continue avec Timothée. Et il dit « j'espère dans le Seigneur vous envoyer Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. En effet, j'ai personne qui partage mes sentiments. » Ils n'étaient pas tous des bons citoyens de l'Évangile. « Ils cherchent tous leur propre intérêt et non ceux du Christ Jésus. Mais Timothée a fait ses preuves et il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. » Quelqu'un qui était consacré, passionné pour la cause, qui dit « l'Évangile compte tellement, eh bien ok Paul, je te suis. » Et puis il a quitté sa petite ville de Lystre. Et il a connu à son tour l'emprisonnement, les lapidations et toutes ces choses-là. Et puis il donne un troisième exemple, Épaphrodite. Les Philippiens l'ont envoyé, et on ne sait pas ce qu'il y a eu. Il est tombé malade en chemin, il était tout proche de la mort. Mais Paul dira que cet homme a exposé sa vie. Et l'enjeu qui est, le mot qui est utilisé, c'est MacArthur qui dit, c'est l'idée de vraiment de tout mettre sur la table. C'est comme vous êtes au casino en train de jouer, et puis vous savez, vous avez le gars à la fin, il fait tapis, quoi. Il met tout. Et Épaphrodite, c'est ce qu'il a fait. On lui a dit, va voir Paul pour l'intérêt de l'Évangile. Lui, il tombe malade, il dit, ça va être compliqué, est-ce que je fais demi-tour, est-ce que j'y vais ? J'y vais. Et si je meurs, je meurs, je donne ma vie. Et c'est l'exemple qu'il donne. Hein. Et Paul dit, Dieu merci, il l'a épargné afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Et Paul arrive à la fin de tout ça, il dit, et donc réjouissons-nous dans cette souffrance, dans ces difficultés. Il est au fond de la prison, ils vivent le combat, ils sont persécutés. Et c'est ça. Il continue. Méfiez-vous, parce que dans l'Église, il y a des faux docteurs. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît ces faux docteurs ? Eh bien, justement, ils se complaisent dans la citoyenneté de ce monde. Paul dira, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Et moi, j'agis différemment. Tout ce qui était pour moi une richesse selon ce monde, je l'ai laissé de côté. Et je le considère comme de la boue, afin de gagner Christ. Vous voyez la différence ? D'un côté, des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont charnels, sensuels, qui se complaisent dans les choses du monde, peut-être dans le compromis. Et Paul qui dit, ah, tout ça, je laisse. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est de ressembler à Christ, de participer même à ses souffrances. Pourquoi ? Parce que je sais que derrière, il y a ce qui vient après, il y a la résurrection. Derrière, il y a notre vraie maison, notre vraie cité, notre vraie citoyenneté, et c'est la cité du ciel. Paul est en train de dire, je ne suis pas en train de m'installer parce que je sais que de toute façon je suis en voyage. Et je voyagerai mieux si je voyage léger. Et j'irai voir Christ dans la cité de gloire, là où il installera son royaume pour l'éternité. Et on sent que cela fait partie aussi des souffrances de Paul. Dans Romains chapitre 1, quand il est en train de dire, mais oh, je préférerais mourir, ça serait tellement pour moi le meilleur. Il faut que je rive. Il y a cette souffrance du chrétien, et peut-être vous l'avez déjà vécu, vous passez un temps extrêmement bon, peut-être ce week-end qui j'espère est bon spirituellement, ou vous passez une semaine de vacances, vous êtes avec des frères et sœurs, tout est bien, vous êtes dans la joie, et pourtant au fond de vous, vous n'êtes pas comblé. Et vous sentez qu'il manque encore quelque chose, vous n'êtes pas à la maison. Et certains chrétiens le sentent beaucoup plus fort que d'autres, pour certains c'est même parfois un poids écrasant, comme s'ils avaient une souffrance d'être encore dans ce monde alors que Jésus est loin et qu'on aspire après lui. Et je crois que plus on vit la souffrance, plus on est confronté à la misère humaine et à cette culture oppressante du péché, et plus on cherche à agir contre elle en vivant la culture du royaume, et bien plus cette souffrance devient pesante. Et nous l'endurons pour Christ en continuant le combat, comme dit Paul. Et Paul arrive au chapitre 4 et il va dire, si vous voulez tenir dans le combat, eh bien il va falloir développer des principes de vie sains. Et pour ça, il va falloir que vous arrêtiez de vous inquiéter pour toute chose, mais qu'au contraire, qu'en toutes circonstances, vous priez. Hein, c'était Rick Warren qui disait, quand vous êtes au centre, vous vous inquiétez, quand Dieu est au centre, vous l'adorez. Et je trouve que c'est une belle phrase. Est-ce que dans toutes les circonstances, nous prions, nous développons cette intimité avec Jésus? Et puis il dit, il va falloir veiller sur vos pensées, que votre douceur soit connue de tous les hommes, ne vous inquiétez de rien. Il continue que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. On est dans ce monde où on est bombardé de pensées qui nous maintiennent dans ce paradis sur terre que la société essaye de construire. Et nous devons lutter avec ça. Et pour ça, il va falloir confesser les pensées chaque fois qu'elles sont là et se nourrir de la parole de Dieu pour développer une pensée juste à l'image de Christ. Et puis il dit, il va falloir que vous mettiez en pratique le modèle reçu, ce que vous avez appris, reçu, entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et puis il termine en parlant des sous, hein, parce qu'il y a la conversion de la tête, celle du cœur, et puis à la fin la conversion du portefeuille. Et il dit, si vous êtes des bons citoyens, eh bien à un moment ça devrait contribuer aussi à ce que vous fassiez part de votre argent pour l'annonce de l'évangile. Parce que notre cité est au ciel, et c'est dans cette cité-là qu'on investit. Même si on doit être dans l'humiliation, dans la disette, eh bien ça fait partie aussi des souffrances du chrétien. Si on revient au chapitre 1, quand Paul parle de cette citoyenneté, des citoyens dignes, il va parler de tenir ferme dans un même esprit, de serrer les rangs. On n'est pas tout seul dans ce combat, on est l'Église. Et c'est l'image de la Légion romaine, vous avez déjà vu dans cette caricature dans Astérix, quand ils font la tortue, et puis Obélix, d'un coup de pied, fait tout voler en l'air. Mais en vrai, quand ils faisaient la tortue, c'était extrêmement impressionnant, des soldats qui protégeaient les autres, et puis ceux qui sont avec leur lance, et c'est cette idée, on serre les rangs, on mène le combat ensemble. C'est pas des ordres singuliers, c'est pas toi, sois un bon citoyen, c'est ensemble, collectivement, hein, on est déjà cette cité de Dieu sur terre, qui est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Vous combattez en acceptant la souffrance qui est une grâce et sans crainte des adversaires. Nous n'avons pas à les craindre, nous dit Paul. Pourquoi nous n'avons pas à les craindre? Eh bien, tout simplement, sans craindre les adversaires. Pardon, il dit sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Quand on souffre, on n'a pas à les craindre parce qu'on a notre espérance. On sait où on va. Hein. Et Paul était là de dire si il me tue. Je sais où je vais, et au fond, c'est un gain. Qu'est-ce que Paul est en train d'inviter ces Philippiens à vivre? Il est en train d'inviter à leur vivre ce que le missiologue Ralph Winter appelait, je pense, un style de vie de temps de guerre. Et je voudrais vous expliquer ce que j'entends par là. Ralph Winter disait, souvent, on a pu des fois développer dans le christianisme l'idée que vivre pour Jésus, c'est se dépouiller de tout. C'est faire de la pauvreté une vertu, etc. Et il dit finalement, ça c'est tombé dans une sorte d'ascétisme, et la Bible n'enseigne pas ça. Au contraire, on voit dès le commencement, Dieu met l'homme dans un endroit qui s'appelle Éden, qui veut dire délice, et qui est extrêmement bon. Même après, il va dire que Dieu nous donne toute chose pour que nous en jouissions, et que toute chose est bonne si c'est pris par action de grâce. Et donc quelque part, Dieu, quand on regarde le récit de la création, a créé l'être humain pour une forme d'abondance et de prospérité. Et un jour, on aura cette abondance et cette prospérité au ciel. Néanmoins, nous sommes dans une situation où la réalité, nous dit Paul, c'est le combat. C'est le combat entre cette citoyenneté d'en bas qui est régie par le royaume du péché, la culture du péché, et cette citoyenneté d'en haut du royaume de Dieu qui est censé vivre selon les principes de Dieu. Et dans ce temps, ce n'est pas le paradis. Jésus, quand il était sur terre, il ne s'est pas installé comme s'il était arrivé. Ça viendra, mais plus tard. Et de la même façon, nous ne devrions pas chercher à nous installer ici-bas, nous devrions aussi être en voyage vers cette cité-là. Et Ralph Winter prend cette image, il parle d'un bateau, un vieux bateau qui se trouve actuellement stationné dans la baie de Los Angeles, qui est le Queen Mary, qui est un des plus grands paquebots que l'homme a construit, un petit peu comme le Titanic. Et le Queen Mary, aujourd'hui, est un musée qui est à Los Angeles. Et apparemment, le Queen Mary est divisé en deux parties. Dans la première partie, vous voyez le bateau tel qu'il était dans la période où il naviguait en tant que grand paquebot de luxe dans l'entre-deux-guerres entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et vous visitez et vous verrez des choses qui ressemblent au film Titanic, hein, avec les premières classes et leurs couverts en argent, des suites immenses et avec le mobilier royal et toutes ces choses-là. Et dans ce temps de faste et de luxe et de paix, eh bien, ce bateau pouvait accueillir 1500 ou 2000 passagers, et puis il traversait l'océan pour emporter les riches touristes. Arrive la Seconde Guerre mondiale, et tout à coup, les États-Unis rentrent dans la guerre, et avec la guerre vient l'effort de guerre. Et donc, les hommes sont envoyés au front, les femmes vont dans les usines, parce qu'il faut continuer à faire tourner le pays, et toute l'économie du pays commence à se diriger vers ça. Et donc, on change les budgets de l'État, on réaffecte les fonds, parce que la priorité, c'est la guerre. Et à ce moment-là, le gouvernement américain a une idée. Ils vont réquisitionner le Queen Mary et s'en servir pour le transport des soldats entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour préparer le débarquement de Normandie. Et ce jour-là, on passe tout à coup de 1500, peut-être 3000 personnes en comptant les passagers, l'équipage, à 15 000 soldats qui vont être mis dans ce bateau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence. Et en fait, la deuxième partie du bateau et encore aménagé comme il était pendant ce temps-là de guerre. Et apparemment, vous avez dans les chambres, là, vous aviez les suites royales, tout à coup, vous avez des couchettes sur 5 étages, les vaisselles en argent et les couverts en argent ont laissé la place à des simples gamelles en métal basique où les soldats prenaient leur repas. Et tout à coup, tout a changé. Pourquoi ça a changé? Est-ce que c'est parce que les Américains, tout à coup, ont découvert la vertu de l'ascétisme et de la pauvreté? Absolument pas. Ça a changé parce qu'on est passé du temps de paix au temps de guerre. Et qu'en temps de guerre, il y a une cause supérieure qui fait que ça vaut la peine de se mettre dans de telles conditions. D'accord ? Donc c'est pas qu'il y a une vertu dans cette condition, c'est à cause d'un objectif plus grand. Et en fait, Ralph Winter dit que quelque part, dans les temps où nous vivons, eh bien en fait, les chrétiens devraient adopter ce style de vie de temps de guerre. Nous ne cherchons pas à être simples, comme si la simplicité avait une vertu purificatrice. Mais c'est l'idée de dire, dans le monde où nous vivons, la priorité, ça devrait être le combat pour l'annonce et l'avancée de l'Évangile et du royaume de Dieu. La priorité, ça devrait être que nous rendions témoignage au royaume de Dieu dans un monde pécheur. En aimant de façon radicale, en étant généreux de façon radicale, en brillant dans la culture de façon radicale, en nous dépouillant de nos biens de façon radicale pour l'intérêt de l'Évangile, en étant prêt à donner carte sur table et à partir en mission dans des endroits où la vie coûte. J'ai un couple d'amis récemment qui est parti comme missionnaire en Afghanistan. On ne sait pas s'ils vont revenir, mais ils vont là-bas. Et parce qu'à un moment, ils ont compris que ça vaut la peine, parce qu'il y a une cause plus grande que de s'installer et de rester ici comme le font les païens. Et Paul est en train de dire ça, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Cherchez la cité d'en haut, donnez vos vies pour cela, offrez vos vies en libation sur le sacrifice. Engagez-vous pleinement sur la cause comme Timothée, mettez carte sur table, faites tapis comme Épaphrodite. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Donnez vos vies comme des bons citoyens de l'évangile, comme Christ l'a fait. C'est pour ça que Dieu vous a appelé et il va continuer à le faire pour que vous soyez irréprochables. C'est une grâce de croire en lui et c'est une grâce de souffrir pour lui. Parce que toutes ces choses sont comme de la boue et si vous faites comme moi, alors dit Paul, vous aurez part aux souffrances, mais aussi à la gloire de Christ. Et je crois que ça nous invite à dire, il y a la souffrance dont on a parlé hier, et bien sûr qu'elle est terrible. Quand le mal frappe à notre porte et qu'on se retrouve au fond du trou, on a besoin du Seigneur. Mais il y a une autre souffrance qui, celle-là, je dirais, est presque optionnelle. On peut la rejeter, on peut faire le choix de la rejeter. Mais Dieu nous invite à l'accepter et à dire « Je suis prêt parce que ça en vaut la peine. Je suis prêt à le vivre pour Christ. » Et je ne sais pas pour toi ce que ça demande. Est-ce que ça demande peut-être un moment de quitter un boulot qui paye bien et de partir dans une école biblique? Est-ce que ça demande peut-être d'accepter une promotion dans ce même travail qui sera coûteuse et où tu as des craintes parce que tu sais que dans cet endroit-là, il faudra mouiller la chemise pour le Seigneur et continuer à témoigner par ton éthique fidèlement et que tous les jours, tu vas avoir de l'oppression et tu te dis « mais je ne sais pas si je suis prêt à payer le prix ». Mais c'est tout autant un combat pour l'Évangile que celui qui part en mission. Est-ce que c'est de dire « eh bien, il y a ces réfugiés qui sont en face de chez moi et qui ont besoin de l'amour de Dieu. Et finalement, ben, on pourrait se serrer un peu plus chez moi et en prendre un dans la maison et lui montrer ce que c'est que l'amour de Christ. » Et ce que c'est que de dire, eh bien, dans l'Église, il y a ces jeunes qui ont besoin d'être enseignés, et peut-être que je pourrais donner une soirée de plus par semaine pour ça. Et vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a. Ça prend différentes formes, parce que chacun de nous, Dieu a une trajectoire particulière. Mais dans tous les cas, Dieu nous invite chacun à être des gens qui se conduisent d'une manière digne de l'Évangile de Christ, en étant prêts à ce que ça coûte, en ne cherchant pas nos intérêts, en aimant sans condition, et en étant prêts à souffrir pour lui, s'il le faut, jusqu'à la mort, comme les premiers chrétiens l'ont fait. Ma prière, c'est que nous puissions chanter le chant, la croix devant moi, le monde derrière moi, mais avant tout que nous puissions le vivre. Et que ces chants-là deviennent une réalité, et que nous puissions un jour dire, ben, ça coûte, ça fait mal. Mais comme les apôtres, je suis heureux. Heureux de le faire, parce que mon Seigneur en vaut la peine. Et je sais qu'après tout ça, il y a cette joie immense. Il y a le ciel, il y a la cité de gloire, il y a cette nouvelle humanité. Et nous sommes en train de la construire ensemble, chaque fois que l'Évangile avance. Je vous invite à prier. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour les richesses de l'Écriture. Et Seigneur, ma prière, c'est que nous ne soyons pas simplement des chrétiens réjouis d'être sauvés, de t'appartenir, mais qui ensuite vivent peut-être simplement comme le commun des mortels, en essayant bien sûr d'être pieux et attachés à ta parole, mais surtout en cherchant à éviter la souffrance, que Seigneur, au contraire, nous soyons prêts à être dignes de ton appel, à renoncer à nous-mêmes, à embrasser la croix et à te suivre. Et Seigneur, en disant cela, je prie pour moi le premier, pour ma famille, pour mon Église, et bien sûr aussi pour mes frères et sœurs. Seigneur, que tu nous donnes d'être dignes de l'Évangile. Seigneur, souvent nous sommes confondus d'humilité quand nous voyons les témoignages de l'histoire, les témoignages de ce que vivent d'autres chrétiens dans le monde. Nous disons, mais sommes-nous vraiment à la hauteur de notre foi? Mouillons-nous la chemise comme nous devrions le faire? Et Seigneur, je te prie que tu nous visites et que par ton Saint-Esprit, tu réveilles en nous une grande vision glorieuse de ton appel, de l'Évangile et de la mission. Et Seigneur, quand on voit au jour de la Pentecôte que l'Esprit a été répandu, les apôtres qui étaient craintifs, qui avaient peur, tout à coup ils étaient transformés, ils étaient prêts à s'engager radicalement pour toi. Ils avaient une plus grande vision de toi et une plus grande passion pour toi. Et Seigneur, je te prie que dans notre temps, dans notre génération où le monde cherche tellement à nous happer avec ce paradis artificiel qu'il essaye de construire, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne produire à nouveau cela en nous, une plus grande vision de toi, une plus grande passion pour toi. Et que nous soyons prêts, comme Christ, comme Paul, comme Timothée, comme Épaphrodite, comme tant d'autres avec eux, à nous consacrer pleinement à la cause de l'Évangile, à offrir nos vies en offrande, en sacrifice pour toi, à être passionné pour la cause, à être prêt à faire tapis et à donner nos vies sans regarder en arrière. Et Seigneur, le monde nous prendra sans doute pour des fous, mais ça a été le lot de l'Église de tous les temps. Par contre, derrière, nous savons que nous aurons la communion avec toi et avec tous les saints et avec tes témoins de toute génération et la joie d'être attendu à la cité céleste et d'avoir un jour cette récompense, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, que tu nous donnes de voir la vraie valeur de l'Évangile et du ciel, et d'être prêt à nous détacher des choses qui certes sont bonnes, sont données par toi, mais qui en ces temps où l'Évangile avance, valent la peine d'être laissées de côté pour nous consacrer à toi. Tu vois chacune de nos vies, tu vois chacun nos appels, Seigneur, ceux qui peut-être un jour seront sur des champs de mission, ceux qui vont s'investir dans des églises locales, ceux qui vont avoir des carrières exigeantes dans un monde de plus en plus compliqué où le péché brûle, ceux qui vont peut-être s'engager au sein de la société pour promouvoir aussi des valeurs qui sont conformes à ton évangile. Seigneur, tu vois chacune de nos vies et nous te prions que dans chacun de ces appels, tu nous montres comment le faire comme de bons citoyens de l'évangile. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous montrer comment vivre cela dans nos vies. Et Seigneur, nous avons cette assurance que comme pour les Philippiens, tu veux continuer cette œuvre que tu as commencée en nous, nous rendre purs et irréprochables pour le jour de Jésus. Et nous te demandons de le faire, de produire en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions mettre notre salut en action. Amen.
sujet, là, un petit mot de conclusion.
Oui, ok. Il y a juste une annonce supplémentaire qui concerne Yann et Élie.